de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Bouillon de Chartreuse aujourd'hui, c'est spécial environnement parce que comme vous le savez, c'est la période de renouvellement de la charte du parc naturel régional de Chartreuse qui va concerner tous les chartreusins et toutes les chartreusines jusqu'en 2035 quand même. Donc on a reçu Jean-François Noblet, un des fondateurs de la FRAPNA, qui va nous expliquer pourquoi son dernier livre est en fait un manuel d'éco-résistance. Alors vous allez voir, c'est très très drôle, c'est sous forme de journal de bord d'un écolo-activiste. Mais d'abord, on va écouter Véronique Morel pour les Amis du Parc. Elle va nous parler des cafés du parc, justement, qui sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s'exprimer au sujet de l'avenir du territoire. N'hésitez pas à y aller pour une fois qu'on vous demande votre avis. Bonjour Véronique.
Bonjour Catherine.
Alors, est-ce qu'on peut redire de quelle association il s'agit?
Oui, alors l'association des Amis du Parc, elle a été créée juste avant le parc, donc je crois que c'était en 92, quelque chose comme ça, donc oui, c'est un petit peu vieux.
Oui, avant le parc, oui.
Avant le parc, puisque c'est un groupe de personnes qui a aussi aidé à l'émergence, on va dire, du parc, et à la première signature du contrat de parc. Et donc, cette association existe toujours et elle travaille en collaboration avec le parc naturel régional de Chartreuse sur certains projets, certaines actualités, et puis aussi sur le patrimoine, enfin voilà, sur d'autres choses.
Et concrètement, donc, elle fait quoi, par exemple?
Alors concrètement, ben là, on peut nous rencontrer assez souvent sur le territoire parce qu'on anime pas mal de rencontres et d'animations, surtout destinées aux habitants. Donc, il y a eu, par exemple, il y a 3-4 ans, des cafés patrimoine sur différents thèmes sur le territoire. Il y a eu des bistrots EAU sur l'eau en Chartreuse. Et puis, ben là, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la transition énergétique avec des cafés énergie, des conférences, différentes rencontres et différents projets. Et puis là, on est en train de démarrer un programme de café du parc.
Oui, et voilà, c'est pour ça que Véronique est venue nous en parler. Parce que donc, le premier a déjà eu lieu. C'était
à Entremont-le-Vieux, le 17 mai.
Et comment ça s'est passé?
Eh ben, on était vraiment très très contents de l'accueil et puis du succès de cette rencontre. Il y avait presque 50 personnes.
Donc, ah oui, c'est pas mal.
Oui, c'est vraiment super. Donc l'idée c'était de rassembler des habitants, aussi des gens qui travaillent sur le territoire. Hein. Il y avait des exploitants agricoles, il y avait des commerçants, des gens qui avaient des gîtes, etc. Il y avait des élus, il y avait quelques associations. Et les gens venaient plutôt de la vallée des Entremonts, forcément, parce qu'on était là-bas. Mais il y avait aussi des personnes qui venaient à Corbel, bon c'est pas très loin Corbel, mais il y avait aussi Chapareillan, Saint-Pierre de Chartreuse, Saint-Hugues et même Provézieux. Voilà, donc c'était assez large.
D'accord, et la soirée a fini tard?
La partie discussion, rencontre, au sens un peu plus formel, je pense qu'on a dû finir vers, je sais pas, je vais dire 10h, 22h. Mais enfin, après, il y avait une petite dégustation de produits locaux, etc. Et les discussions ont continué, je pense, au moins pendant une heure et demie, ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, un bon moment.
Oui, c'était animé. C'était très animé et sympa.
Et quels thèmes ont été abordés?
Alors, on a abordé 4 thèmes. Donc, dans ces cafés, ils sont là pour essayer de se représenter l'avenir du territoire, ce qu'on aimerait pour le territoire, les craintes ou les idées qu'on peut avoir, en se plaçant à l'horizon assez lointain, 2035.
Ah oui, carrément.
Ouais, quand même. Non, mais ça permet d'avoir une vision peut-être un peu plus sur le futur et de pas être juste sur demain, après-demain, qu'est-ce qui va arriver, mais de voir un peu plus loin. Donc, on a parlé de dynamisme économique, comment on fait pour conserver et dynamiser l'activité économique dans les vallées. On a parlé de l'agriculture et de la filière bois, alors particulièrement aux Entremonts, c'est des sujets qui sont forts. On a parlé de tourisme, quel est l'avenir pour le tourisme en Chartreuse, et puis on a parlé de transition écologique, à la fois avec l'énergie, mais aussi toutes les pratiques plus durables qu'on pourrait mettre en place.
Et donc, les habitants, vous les sentez comment ? Plutôt optimistes ? Les gens posent beaucoup de questions, beaucoup d'idées ?
Alors, l'idée de la rencontre, c'était de... On a commencé par une introduction, mais très courte, pour donner quelques idées clés sur le territoire. Par exemple, le territoire couvert par la forêt, le nombre d'entreprises agricoles, etc., des choses comme ça. Mais après, on n'a pas voulu en dire trop pour vraiment laisser la place aux idées. Et là, on est ressorti. On a mis en place aussi une technique d'animation qui permet de recueillir assez facilement les idées.
Quelle technique ?
Ah, mais il faut venir.
C'est un mystère.
Bon, il faut venir. Oui, non, faut c'est venir. Tout simple, mais ça permet vraiment aux gens de réfléchir, de produire des idées et aussi de s'intéresser aux idées des autres et de pouvoir les enrichir. Donc effectivement, j'ai encore pas commencé à faire le compte-rendu, mais ça va être... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties.
Ouais. Oui, parce qu'on dit qu'au niveau national, les Français sont plutôt inquiets. Est-ce qu'en Chartreuse, ils seraient un peu plus confiants ?
Alors, je pense que les gens qui viennent à ces soirées... Ils sont pas forcément. Alors, il y a des inquiétudes. Par exemple, les personnes qui travaillent dans le tourisme, sur la neige, ils savent bien qu'ils vont devoir faire évoluer leurs activités. Donc, ils sont plutôt. C'est plus du réalisme, parce qu'il y a quand même des choses. C'est là, quoi. Donc, on peut pas les nier. Il y a même plus tellement de raisons d'être inquiet, parce que. De toute façon, c'est là. Donc maintenant, oui. Il faut faire quelque chose. Et par contre, il y a beaucoup d'idées. Donc, je pense surtout que c'est des idées qui méritent d'être écoutées et puis de voir ce qu'on peut faire avec et rebondir dessus et pouvoir exploiter toutes ces choses. Par exemple, dans l'agriculture, c'est sûr qu'il y a, sur le territoire, il y a sûrement un problème de remplacement des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc, comment on fait pour favoriser l'arrivée de jeunes agriculteurs ? Parce qu'on ne veut pas perdre ça, on ne veut pas qu'on ait un territoire simplement fait de forêts parce qu'on n'exploite plus les terres. Donc voilà, dans quelle dynamique on se place pour accueillir des nouvelles personnes qui vont venir faire du maraîchage ou de l'élevage.
Voilà. Oui, et du côté de l'écologie, est-ce que ça, y a beaucoup de choses qui évoluent justement ? Le bois, est-ce qu'il y a de nouvelles façons de s'en servir ?
Alors le bois, c'est sûr que le bois en Chartreuse, c'est une ressource qu'on va pouvoir utiliser pour produire de l'énergie. Surtout que la forêt a plutôt tendance à avancer. Donc on peut d'un côté, il y en a qui peuvent trouver ça super, mais d'un autre côté, la forêt, elle a tendance à fermer des paysages. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les points de vue, ou alors on a sa maison qui est entourée de forêt, donc on est dans le sombre, alors qu'avant on avait peut-être des clairières. Enfin, puis ce n'est pas forcément bon pour la biodiversité, parce qu'il y a plein d'espèces qui ont besoin de clairières. Par exemple, le sabot de Vénus, s'il n'y a plus que des forêts, il n'y a plus de sabot de Vénus, parce qu'il a besoin de lumière.
Je ne sais pas ce que c'est que le sabot.
Ah, c'est une orchidée emblématique.
Ah oui, c'est vrai.
Bon. Emblématique de Chartreuse, qu'on trouve beaucoup par ici et qui commence à fleurir ces jours-ci, paraît-il. D'accord. Pour ceux qui veulent aller prendre des photos. C'est tout.
C'est une espèce protégée ?
Ah oui.
Est-ce que vous en profitez de ces cafés pour faire donner des informations, par exemple, sur les espèces protégées,
Alors là, c'est pas trop le but. Déjà, enfin, comme vous avez compris, le thème des cafés, c'est beaucoup plus large que juste l'environnement et la biodiversité, puisqu'on peut parler aussi d'économie, tourisme, etc. Par contre, j'ai vu sur le site du parc qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors déjà, il y avait quand même vendredi dernier à Entre-deux-Guets, il y avait un ciné-débat sur le chat sauvage et le lynx en Chartreuse.
J'aurais bien aimé y aller. Ça devait être vraiment
passionnant. C'était super bien. Un très beau film et puis une grande discussion derrière. Donc,
mais il y a des lynx en Chartreuse ?
Eh bien, il paraît qu'il y en a quatre. Oui. D'accord. Si j'ai bien compris, il y a trois mâles et le quatrième, on ne sait pas. Donc, du coup, pour la reproduction, ce n'est pas encore gagné. Parce que, voilà. Mais donc, voilà, on a des cinémas qui organisent des ciné-débats et c'est quand même super intéressant. Donc, merci à eux. Et puis, il y a aussi, je crois que le parc, il me semble que c'est le 2 juin à Corbeil, il me semble avoir vu ça, une conférence sur la biodiversité en Chartreuse. Enfin, une soirée échange. Donc il y a des espaces pour parler de tout ça plus spécifiquement, mais voilà, l'idée des cafés du parc, c'est d'être plus large sur les enjeux du territoire, voilà, globalement.
Oui, parce que donc pour le futur, on pose ce genre de questions. Comment se dessine l'avenir pour votre territoire? Quelles sont vos idées, vos questions? Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, habitants, associations, acteurs économiques et élus.
Oui, bah ça me paraît un point important, c'est que quand on mélange les publics, quand on mélange des associations avec des habitants, avec des élus, avec des gens qui tiennent un commerce ou qui sont acteurs du tourisme, c'est quand même beaucoup plus riche, parce que si on reste cantonné dans une seule typologie de personnes, c'est pas que c'est pas intéressant, mais on risque de rapidement tourner en rond parce qu'on se confronte pas à ce que d'autres types de personnes vont penser. Alors que là, tout se mélange et voilà, on a des habitants qui peuvent questionner sur une chose, l'exploitant agricole qui peut répondre du coup sur le même thème, ça rebondit et c'est plus varié. Et je pense que pour la production d'idées, pour la créativité, c'est mieux.
Et donc, c'est sous forme d'ateliers participatifs.
Oui. Ben c'est ça, ouais. On se met par table, en fait, par thème. Donc, il y avait les quatre thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'économie, agriculture et bois, tourisme et transition écologique. On a demandé aux personnes de choisir leur thème. Et puis, ils se sont répartis, du coup, par table. Et là, on a eu une animation qui a duré, une heure à peu près, et qui a permis de discuter, d'écrire, de produire des idées, etc.
Et donc, c'est le deuxième café, il y en aura 8.
Alors, le deuxième café, c'est celui de la semaine prochaine, au Sapet.
Oui.
Il y en aura normalement, il y en aura 8 maximum. Voilà. Donc, le troisième, il est déjà fixé depuis ce matin. Donc, c'est une nouvelle fraîche du jour. Il sera le 28 juin, je crois que c'est un jeudi, à Vimines. Vimines, c'est quand on va vers Chambéry, juste avant Cognac. À 20h30. Et puis, on est en discussion avec Vorep. Probablement, on reviendra du côté de Saint-Laurent-du-Pont à la rentrée, donc à voir. Et puis après, on va aller peut-être du côté de Mélan, du côté de Saint-Égrève. On va faire vraiment... Parce que le parc de Chartreuse, il a un périmètre quand même assez large, qui s'élargit en plus. Et on a pas mal d'habitants qui sont sur les bords, entre guillemets les bords, dans des zones un peu plus urbaines. Il y a beaucoup d'habitants par là-bas. Donc c'est intéressant d'aller les voir. Et de savoir déjà s'ils se rendent bien compte qu'ils sont dans un parc. Que c'est pas, je pense que c'est pas évident. Plus on est sur les frontières, moins on est conscient et moins c'est fort quoi comme idée. Alors qu'ici, en cœur de Chartreuse, on sait tous bien qu'on est en Chartreuse. Si la communauté de communes s'appelle comme ça, on est dans Saint-Pierre de Chartreuse, etc. Bon, bref, on sait. Mais du côté de Vorep, c'est peut-être moins évident. Mais comme il y a beaucoup de population, on va aller faire un tour là-bas, oui.
Et au point de vue de la démographie, est-ce qu'il y a plus de gens qui partent ou plus de gens qui arrivent? Comment ça se passe pour
Alors,
la Chartreuse?
En Chartreuse, il y a une augmentation légère et régulière de la population. Donc, je pourrais pas vous dire de l'ordre de peut-être 1% ou 2% par an. Enfin, je sais pas.
Ah oui,
pourcentage, je suis pas très sûre, mais la population augmente. Donc, elle augmente plutôt sur les bords. Toujours entre guillemets les bords. Parce que c'est la pression urbaine sur le tour de Grenoble, de Voiron, de Chambéry, qui fait que les habitants de ces villes-là, ils s'éloignent un petit peu des villes. Soit pour chercher une meilleure qualité de vie, soit parce que c'est trop cher en ville, etc., pour acquérir un logement. Du coup, ils viennent conquérir petit à petit, on va dire, la périphérie du parc.
Et il s'agit plutôt d'une population jeune, du coup?
Les nouveaux arrivants, probablement. Par contre, au global, la population de Chartreuse, comme de l'Isère et comme de la France et comme de l'Europe, je pense, elle a tendance à vieillir en âge moyen.
Après, d'accord.
Oui.
Mais parallèlement à l'évolution au niveau national, il n'y a pas de...
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, donc c'est une colle.
Oups, désolée.
Sinon, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense qu'on doit pouvoir les trouver dans les documents de diagnostic sur la nouvelle charte du parc. Donc, ça doit être disponible sur le site du parc de Chartreuse. Il y a un gros document de 140 pages où il y a tous les chiffres.
Ce qui me fait penser au café du parc, est-ce que c'est plutôt des jeunes qui viennent ou Ça concerne toutes les tranches d'âge?
Alors là, aux Entremonts, c'était mélangé, mais je pense qu'en dessous de 30-40 ans, on n'a pas beaucoup de monde quand même.
D'accord.
Ouais.
C'est quand même des gens qui sont bien concernés par leur territoire, qui sont là depuis longtemps.
En général, c'est plutôt des gens qui sont là depuis longtemps, je pense. Alors à part, il y a quelques exceptions. Je me rappelle, c'était aux Entremonts, quelqu'un qui est arrivé depuis très peu de temps et qui du coup s'intéresse à son territoire et est déjà impliqué. Alors depuis très peu de temps, depuis peut-être 2 ans, je crois, il m'a dit, et qui du coup s'intéresse à la vie locale, la vie associative, qui s'implique et qui vient.
Mais, d'accord. Et donc, on peut rappeler l'Assemblée Générale le 14?
L'Assemblée Générale des Amis du Parc le 14 juin, donc c'est dans 15 jours, 3 semaines.
Oui.
Ça se déroulera au Centre Social des Pays du Gué, là, à Saint-Laurent-du-Pont, en fin de journée, 18h30, 19h. Donc c'est ouvert aux adhérents, mais aussi à tous les habitants qui ont envie de nous rencontrer.
Oui, et d'en savoir plus.
Pour savoir ce qu'on bricole en Chartreuse, nous connaître un petit peu mieux, partager un bon moment avec nous. Donc, tout le monde est bienvenu.
Parce que donc, les Amis du Parc, ça représente combien de personnes, à peu près?
Alors, je ne crois pas qu'on tienne un compte super précis des adhérents.
Pas des adhérents, mais dans la structure.
Alors, dans la structure, il y a, je vais dire, une quinzaine de bénévoles qui sont très actifs.
Quelle chance!
Oui, c'est vrai. Après, on fonctionne plus en réseau avec l'ensemble des habitants et des acteurs qu'on a pu identifier dans les cafés énergie ou maintenant dans les cafés du parc. Donc, on a un réseau assez étendu, mais par contre, on ne va pas les compter comme faisant partie de l'association. C'est plus des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui viennent aux rencontres qu'on propose et qui sont actifs en ce sens-là.
D'accord. Bon, on va rappeler la prochaine date. Donc, deuxième café du parc, notez bien, mardi 5 juin au Sapé en Chartreuse, à la cantine du groupe scolaire, à partir de 20h30.
Oui, ouvert à tous.
Voilà. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter?
Eh bien, non, ça me paraît clair. Merci Très beaucoup, bien. Catherine, pour l'invitation.
Eh bien, merci, Véronique, d'être venue. Et donc, n'oubliez pas le rendez-vous le 5 juin au Sapé en Chartreuse, à la cantine du groupe scolaire, à 20h30, pour passer une bonne soirée conviviale et réfléchir ensemble à l'avenir. Au revoir.
Au revoir. Have desired, will not change your mind, though my arguments are right. I am your trouble, I'm the sacrifice. I am your danger and you're my worst advice. If you hit me once, I will hit you twice. Before I drop down dead, just get the fuck out of my head. If you hit me once, I will hit you twice. Give me 5 minutes to rest, get the fuck out of my head. Oh,
De Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Et maintenant, on écoute Jean-François Noblet, le punk de l'écologie. Qui est donc le sale gosse de l'écologie depuis 40 ans. Il a fondé en 1972 la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section.
Ouais, j'étais pas tout seul. Hein.
Ah bon, pas tout seul?
Bah non, on était cinq écolos à créer cette fédération au départ.
Et donc vous vous définissez comme un militant, vous avez manifesté sur le Larzac, occupé des carrières illégales, vous avez cassé 2 mètres de clôture de la centrale de Crémalville, on peut le dire?
Oui, ouais. Bah oui, c'était lors des manifestations publiques, non violentes. Donc voilà.
Vous avez mis des bulldozers en panne et des panneaux à terre.
Oui, mais ça c'est prescrit depuis longtemps.
Bon, vous êtes calmé avec l'âge?
Non, je ne me suis pas calmé. En plus, je suis très angoissé par rapport à l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Franchement, la situation est grave.
Oui. Et vous dites que la priorité, en fait, c'est les pesticides, la lutte contre les pesticides.
Oui, si je devais donner une priorité dans tous les problèmes qui assiègent la planète, eh bien, c'est pour notre région, évidemment, c'est les pesticides qui sont en train de détruire l'ensemble de l'écosystème et de la faune et de la flore, polluer les sols de manière irrémédiable. Et ça, c'est vraiment un énorme problème qu'on est loin d'avoir résolu. Le gouvernement s'est engagé à arrêter le glyphosate, qui est un des pesticides, mais pas le seul, dans la période de 3 ans. Il commence à dire que ça serait peut-être pas possible, qu'il faudrait attendre un peu plus longtemps. Non, il faut pas attendre, parce que quand on regarde les pare-brises des voitures aujourd'hui, en été, il n'y a plus aucun insecte qui vient se taper dessus, alors qu'il y a seulement 10 ans, vous étiez obligé de vous arrêter pour nettoyer, parce que les essuie-glaces n'étaient pas assez puissants. Voilà. Donc c'est un des problèmes. Mais si on regarde à l'échelle de la planète, la surpopulation mondiale est encore un élément encore plus angoissant. Il y a trop d'hommes sur la planète par rapport aux ressources en eau, en nourriture, en espace. Et évidemment, moi, je suis pas pour faire des guerres, je suis pas pour tuer des gens, ni refuser des immigrés, mais il est absolument indispensable qu'on regarde... d'une manière plus précise, comment est-ce qu'on peut diminuer la population mondiale en éduquant, en faisant le planning familial le plus possible et partout, en réduisant notre consommation, en la partageant mieux, réduisant notre impact écologique, notre empreinte écologique. Et pour vous donner une information précise, le PIVER organise une conférence qui sera sur ce thème-là, sur le thème de la surpopulation mondiale, au Festival de l'Avenir au Naturel de l'Albinque, le samedi 1er septembre, après-midi. Et c'est très important, parce que c'est un sujet tabou. Les gens n'osent pas parler de ça, parce que ça touche l'espèce humaine. Moi, j'adore les enfants, autant que les animaux, j'adore les êtres humains, je suis heureux d'être un être vivant. Mais je sais qu'on va pas pouvoir continuer à augmenter le nombre d'humains sur la planète d'une manière indéfinie. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut trouver les moyens d'avoir une certaine stabilisation et meilleure répartition de la population sur la planète.
Il n'y a pas longtemps, j'étais au Salon Prime Vert à Lyon. Il y avait une association qui proposait d'essayer de limiter le nombre d'enfants par couple à 2 dans le monde. Et en disant qu'au-delà de 2, ne pas verser d'allocation, ce genre de mesures, est-ce que vous êtes pour ?
J'en sais rien précisément, je n'ai pas étudié la question, mais je trouve que ça serait une bonne manière de regarder un peu les choses, d'affronter le problème. Après, est-ce qu'il faut mieux privilégier l'éducation des femmes et pour les pays en état de surpopulation et qui ont une croissance démographique trop importante? En France et en Europe, dans les pays développés, on peut dire que la surpopulation, la croissance démographique s'est un peu stabilisée, à tel point que le Japon, par exemple, est en train de de diminuer sérieusement son renouvellement de population. Bon, ça c'est déjà, pour les pays en voie de développement, il faudrait absolument que toutes les personnes puissent avoir accès au planning familial, aux moyens de contraception, et surtout que les ressources économiques fassent qu'il y ait un peu plus de bien-être dans ces populations, parce qu'on sait que dès que le niveau de vie augmente en qualité, en quantité, eh bien, la régulation du nombre d'enfants se fait automatiquement. Et c'est surtout lié à l'éducation des femmes et aux moyens contraceptifs. Donc, ça serait une priorité. Mais aussi chez nous, en fait, on a peut-être un peu moins de croissance démographique, mais comme on consomme de plus en plus de ressources, il faut dire que l'impact sur l'ensemble des ressources de la planète, eh bien, c'est 10 fois celle du Sri Lanka ou du Zimbabwe. Donc, forcément, notre impact est lié non pas au nombre d'habitants, mais à la consommation qu'on fait chacun d'entre nous. Donc, il faut aussi qu'on réduise ça et qu'on le réduise de manière importante. Alors, on commence à réduire la consommation en eau. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On le constate. C'est tant mieux, mais il faudrait diminuer notre consommation en énergie, diminuer notre consommation en ressources naturelles. Et quand on voit le gaspillage alimentaire qui est encore important chez nous, 20 kilos par habitant et en France et par an, c'est trop. Donc tout ça, c'est inadmissible et il faut aussi qu'on regarde les problèmes de démographie mondiale par la réduction de la consommation et de l'empreinte écologique de chaque habitant de notre pays.
Et paradoxalement, il y en a qui disent que les pesticides, justement, ça fait baisser la fertilité des êtres humains et ça peut résoudre le problème.
Mais c'est vrai, c'est vrai. Et quand vous regardez aujourd'hui les jeunes couples qui aimeraient avoir des enfants, vous constaterez qu'il y a de plus en plus de jeunes couples qui ont des difficultés à mettre au monde des enfants. Alors, je ne vais pas prendre cette solution-là parce qu'elle atteint non seulement la fertilité, mais elle donne des maladies graves, des cancers, des allergies, et toute une série de problèmes dans les défenses immunitaires. Donc, faut pas considérer que c'est une bonne solution.
Et donc là, aujourd'hui, vous êtes venu pour parler de votre livre, le manuel d'éco-résistance.
Oui, c'est le dernier livre que je viens de publier.
Oui, parce que donc vous êtes un punk écolo, vous êtes beaucoup dans l'action. Vous faites plein d'actions, de bêtises, on va dire. Je sais que ça ferait rêver mes adolescents. Par exemple, on peut parler de l'arrosage de biscuits à Saint-Étienne-de-Crossé. Vous distribuez dans la rue des biscuits gratuitement aux gens et quand ils l'ont dans la main, vous les arrosez avec un produit.
Voilà. Alors, je ne l'ai pas fait systématiquement à Saint-Étienne-de-Crossé, mais à différentes occasions. Ah. En fait, c'est l'association Vétérinaires sans frontières qui, pour lutter contre les pesticides, a rédigé un petit clip vidéo que j'adore présenter dans mes conférences et que j'ai imité, évidemment, dans certains cas. Il s'agit de proposer dans la rue des biscuits sur une tablette, comme un serveur de café. Et alors les gens, évidemment, quand on leur offre gentiment un biscuit, ils ont tendance à vouloir le prendre. Et puis on leur dit, mais attendez 30 secondes, et avec un petit, arrosoir qui est de couleur rouge si possible, on arrose un tout petit peu le biscuit avec de l'eau. Et alors les gens posent la question, disant, mais pourquoi vous faites ça? C'est pour qu'il y ait les pesticides que vous avez l'habitude de manger dans les biscuits que vous consommez. Alors là, les gens remettent évidemment, comme ils ne peuvent pas regarder si c'est vraiment des pesticides que j'ai arrosés sur le biscuit, ils le remettent immédiatement sur le plateau et ils disent « Non, non, merci ». Je dis « Mais d'habitude, vous acceptez volontiers de manger des produits complètement contaminés. La plupart des produits qu'on utilise dans les petits déjeuners, par exemple les céréales, les barres chocolatées, les barres de céréales et tout, les 50 millions de consommateurs, l'UFC Que Choisir, ont montré qu'il y avait des doses de pesticides, alors, qui n'étaient pas énormes, qui étaient conformes à la réglementation, mais on en mange systématiquement quand on mange ces céréales. »
Et vous êtes aussi un amateur d'autocollants, vous aimez bien ça, aller dans les rayons où il y a les produits phytosanitaires et coller des autocollants où c'est marqué « danger pour tous » avec une tête de mort en plus. Oui. C'est pour que les gens réalisent en fait ce qu'ils sont en train d'acheter.
Voilà, ça tout le monde peut le faire parce que c'est très facile d'acheter des étiquettes autocollantes et puis au feutre, voire même de les fabriquer sur une imprimante très simplement. On peut en faire... des plaquettes de 20 ou 30 à la fois. Et puis, quand on va dans un magasin de bricolage ou de jardinerie ou une grande surface et on voit un rayon de pesticides et de produits phytosanitaires, bah, c'est pas bien difficile, assez discrètement, de coller une petite étiquette à droite à gauche. Et comme ça, les gens qui vont prendre ça, ou peut-être, ça va les alerter pour qu'ils évitent d'acheter ces produits.
Oui, puis alors, votre livre, il est vraiment plein d'infos. Par exemple, 1 gramme de pesticides, ça pollue 10 kilomètres de rivière.
Alors, de ruisseau, on va prendre un ruisseau ou d'un fossé en eau d'un mètre de large, d'un mètre de profond. C'est-à-dire, c'est pratiquement les pesticides qu'on trouve, enfin, les ruisseaux qu'on trouve en bordure de route pour éviter que les eaux restent sur la route. Donc, ces fossés, même s'ils sont temporairement en eau quand il pleut, eh bien, si on met 1 gramme de pesticides sur le bord de la route, eh bien, ça va polluer ce ruisseau, ce fossé sur 10 km de long. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à obtenir que le Conseil général refuse maintenant systématiquement l'épandage de ces pesticides sur le bord des routes du département. Maintenant, d'ailleurs, c'est devenu une règle, une loi nationale. Alors, il y a encore quelques communes, je vais citer le cas de Velane, qui est une commune qui est pas loin d'ici, qui refuse systématiquement d'appliquer la réglementation, et donc le PIVER va probablement attaquer en justice cette commune, parce qu'elle refuse de sauvegarder la qualité de l'environnement et la santé des citoyens, et notamment des gens qui répandent ces pesticides qui sont dangereux pour la santé humaine. Et cette commune refuse de tenir compte de la réglementation actuelle qui interdit l'épandage sur des espaces communaux, des cours d'école, des espaces verts, le bord des voiries, etc. Et donc il y a encore sur la commune de Velane un épandage de pesticides. Et en infraction.
Oui, en parlant d'attaquer en justice, j'ai appris aussi que normalement, on peut exiger qu'il y ait un vendeur formé sur le thème des précautions d'usage pour les produits justement qu'on achète.
Oui, alors ça c'est jusqu'à la fin de l'année 2018, parce qu'au 1er janvier 2019, il sera interdit de vendre ces produits à des particuliers. Et donc d'ici là, normalement, dans chaque grande surface qui a des rayons pesticides, produits phytosanitaires, eh bien, il y a une obligation d'avoir une personne formée qui peut répondre aux questions sur l'usage de ces pesticides, sur les précautions d'emploi, sur la dilution, etc. Et en général, dans les grandes surfaces, c'est n'importe qui qui a subi contre sa volonté 2 heures de formation. Et qu'elle a oublié tout de suite après, et donc elle est absolument incapable de répondre sérieusement aux questions.
Bon, ben on va faire une petite pause musicale avec un morceau qui est bien dans le thème, c'est Les Vampires, la Terre est une poubelle.
Très bien.
Dans le frigo.
Vous parliez des adversaires. Les adversaires, c'est qui pour vous ?
Alors, les adversaires de l'environnement, ben, c'est tous les gens qui polluent sans savoir, qui détruisent la nature sans savoir, qui ou en le sachant, parce qu'il y en a quelques-uns qui savent très bien qu'ils émettent des pollutions, et puis comme il s'agit de gagner du fric, évidemment, ils continuent de le faire. Donc, ils se moquent des règlements, qui se moquent de la loi, et du bien-être de l'ensemble des citoyens et de la nature. Donc évidemment, alors des adversaires, il y en a des wagons.
Hein, ça, oui. C'est... Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est complémentaire de... Vous parlez beaucoup des chasseurs, par exemple, s'attaquer, on va dire, sur le fond du problème, ou plutôt aux grosses firmes, est-ce que vous faites les deux ?
Ben, tout dépend du problème. À mon avis, il faut toujours essayer d'aller là où les gens sont responsables. C'est-à-dire, j'ai horreur de parler avec des écolos et puis de dire, ah, regardez ça, oh là là, quel malheur, etc., etc. On se parle entre nous, ça, on est convaincus, ça sert à rien. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais directement le dire aux responsables. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur le chantier de Chartreuse Diffusion qui a un problème, ben, je vais m'adresser au responsable et puis je vais lui dire franchement ce que je pense. Si j'ai un problème avec un industriel qui pollue, je vais le dire. Si j'ai un problème avec un chasseur ou un agriculteur qui répand des pesticides, je vais lui dire. Et alors, évidemment, il va recevoir ou pas le message, mais je pense qu'il faut qu'on ait le courage de faire ça.
Oui.
À partir du moment où on respecte l'adversaire, qu'on lui dit les choses gentiment, il n'y a aucune raison.
Et puis vous dites qu'il faut être un écolo crédible, il faut vraiment appliquer. Par exemple, vous aimez bien tester vos amis en jetant devant eux des emballages pour voir leur réaction.
Oui, bon, ça, je fais ça, c'est une blague.
On ne doit pas s'ennuyer.
Souvent, quand
vous.
Je suis dans un parc national, par exemple, avec des gardes du parc et qu'on pique-nique, si jamais j'ai un emballage, un déchet quelconque, Pendant le repas, je fais exprès de le jeter devant tout le monde, d'un air de dire, bah oui, voilà. Et pour les voir sursauter. Oui.
Vous avez toujours eu ce sens de l'humour?
Bah, je trouve que l'humour est un bon moyen pour faire passer les choses.
Bon, tout à fait.
C'est-à-dire que le catastrophisme, alors l'argument scientifique, évidemment, bien sûr, ça il faut l'utiliser. Mais si en plus on a une petite dose d'humour, c'est pour ça que le livre que je viens de publier, le manuel d'éco-résistance, les gens me disent que quand ils l'ont lu, ils ont bien rigolé. Ben oui, c'est s'ils ont bien rigolé et qu'en même temps ça leur a fait prendre conscience d'un certain nombre de problèmes, ben, je suis ravi, c'est le but du livre.
Hein. Oui. Et par exemple, sur le thème des chasseurs, alors les chasseurs, je suppose qu'ils n'ont pas trop le sens de l'humour, en général?
Ah, moi, j'en connais qui ont un sérieux sens de l'humour.
Ah oui, quand même. Ah,
oui, bah, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien rigoler un bon coup, et picoler un bon coup aussi. Bon, moi, je ne suis pas contre les chasseurs, je suis contre les mauvais chasseurs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas la nature, ceux qui chassent n'importe comment, et au détriment de la faune. Bon. Donc aujourd'hui, chasser le tétralyre en chartreuse, alors que c'est une espèce qui est en voie de disparition, c'est inadmissible. Donc, mais j'ai des amis chasseurs, il y a des chasseurs adhérents de la FRAPNA, des associations de protection de la nature, et je respecte ça.
Et eux aussi ont été victimes des autocollants?
Oui, bah, avec d'anciens chasseurs, on a édité un autocollant de l'association des repentis de la chasse, une association qui a été créée spécialement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des repentis de la chasse qui souhaitaient s'exprimer et dire, bah voilà, j'ai chassé, mais aujourd'hui, il n'y a plus de gibier, c'est trop cher, mes enfants me font la gueule, j'arrête, je décroche. Et ça, c'est un argument qui fait tilt, parce que c'est en fait les trois arguments que l'Office national de la chasse a étudiés pour montrer la diminution du nombre de chasseurs aujourd'hui. En France, en gros, un peu partout, il y a 2% de chasseurs en moins chaque année. Et compte tenu de l'âge des chasseurs, qui sont de plus en plus âgés, ce nombre, ce pourcentage va augmenter. Donc le problème de la chasse, il va se régler assez rapidement. Dans les 10 ans qui viennent, l'impact de la chasse et l'impact des mauvais chasseurs sera quasiment limité.
Oui, puis en plus, ils sont de plus en plus vieux, ils vont y voir de moins en moins bien et s'entretuer encore plus.
Alors ça pose un problème de sécurité, et le préfet a lancé une consultation qui est malheureusement close aujourd'hui, pour demander aux citoyens français, et isérois surtout, s'ils étaient d'accord qu'on ouvre les battues aux sangliers au 1er juillet. Alors ça veut dire que si on acceptait ça, pratiquement il y aurait des actions de chasse un peu partout dans le département, pendant pratiquement la période d'été où on se promène beaucoup, et ça pose problème de sécurité pour les citoyens. Mmh. Donc les chasseurs n'ont jamais accepté d'arrêter de chasser le dimanche, alors que c'est le jour de la semaine où les gens se promènent. Alors c'est le vendredi, mais le vendredi il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui se promènent pas dans la nature. Et bon, moi j'avoue que j'ai toujours un certain sentiment d'insécurité quand je me promène les jours de semaine, alors que j'ai autant le droit que les chasseurs de me promener dans la nature. Alors ça, quand on voit le nombre de tués ou de blessés, encore aujourd'hui sur le journal, il y a un chasseur qui a tué 5 ânes.
Oui.
en les confondant avec des biches, ça pose problème, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait que les chasseurs acceptent de partager l'espace naturel de manière plus évidente. Et aujourd'hui, le préfet de l'Isère ne va pas dans ce sens-là. Et donc, j'incite le préfet et les citoyens à gueuler, parce que finalement, il n'y a aucune raison que les chasseurs puissent chasser pendant que nous, on se promène, alors qu'il faudrait qu'ils partagent le territoire.
Et pour les aider à prendre conscience de tout ça, vous aimez bien aller coller des autocollants dans les revues, dans les bureaux de tabac où il y a des revues pour la chasse et tout.
Oui, ben voilà, pourquoi pas. C'est une bonne manière de faire.
Et vous conseillez aussi, au niveau des tags, de taguer « mon père chasse, j'ai honte », ce genre de choses.
Alors ça, j'ai vu ça, je l'ai pratiqué dans certains coins aussi, et c'est un bon système.
Oui.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, autrefois, le chasseur qui rentrait à la maison avec un gibier ensanglanté sur la table de la cuisine, et c'était le héros, c'était celui qui nourrissait la famille, c'était quelqu'un de très fort, de très compétent, etc. Aujourd'hui, les chasseurs qui n'osent plus faire ça parce que les enfants vont lui dire « Ah, papa, qu'est-ce que t'as tué ce petit animal ? Mais t'avais rien fait, pourquoi t'as tué ça ? Ah, ben, de toute façon, j'en mangerai pas, hein, c'est sûr. » Voilà. Ouais. Et donc, ce changement, comment dire, de mentalité, alors bon, on peut le regretter parce que c'est un éloignement de la nature aussi, hein, d'une certaine manière. Eh bien, ce changement nous aide à diminuer le nombre de chasseurs et finalement, les chasseurs aujourd'hui ont moins la fierté de ramener un gibier ensanglanté sur la table de la cuisine et c'est tant mieux.
Et justement, parlant des tagueurs, vous dites aussi que c'est quand même dommage qu'ils ne profitent pas des panneaux publicitaires pour taguer dessus.
Oui, alors ça m'énerve beaucoup de voir ces tagueurs. Si vous prenez la plaine entre Saint-Laurent-du-Pont et entre Deguier, vous avez sur la droite, quand vous partez vers Entre-Deux-Guet, sur la droite, dans une prairie, vous avez une vieille grange qui est magnifique et qui vient d'être taguée avec des trucs, on ne sait même pas qui c'est qui a fait ça, ni pourquoi, ni comment. Et c'est moche comme tout, ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Et moi, je dis aux tagueurs, je dis, mais finalement, vous pensez faire un acte contre la société, pour vous exprimer, etc. Mais vous êtes vraiment bien gentil, bien conforme, bien éduqué. Parce que moi, si j'étais un tagueur, j'irais d'abord commencer à taguer les panneaux publicitaires en infraction. Il y en a des wagons. Oui. Alors là, vous pourriez vous exprimer dessus. Vous pourriez dire que vous n'êtes pas d'accord avec la société de consommation, avec le business, etc., etc. Mais là, ces panneaux publicitaires, chers tagueurs, vous les respectez bien consciencieusement. Eh ben, finalement, vous êtes vraiment des bon petit, gentil, bien éduqué, bon père de famille. Oh là là, ça c'est vraiment désolant de voir ça.
Voilà, c'était conseil aux tagueurs. Et on va faire une petite pause musicale avec une chanson aussi bien dans le thème. C'est Chantal Goya, Un lapin.
Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, où vont à mortes saisons tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Comme si cette injustice, quand tu tues les
Donc, comme je le disais, le manuel d'éco-résistance est vraiment rempli de petits trucs, de conseils, d'idées, d'imagination.
Voilà, et pour s'occuper de l'environnement au quotidien. Donc, il y a évidemment toute une série de chapitres. Comment fleurir la ville, comment défendre l'eau potable, en finir avec le bruit des motos à tout terrain, comment gagner de l'argent avec des canettes en alu qu'on ramasse au bord de la route, comment lutter contre les sacs plastiques, protéger les arbres, lutter contre les panneaux publicitaires en infraction, éteindre les lumières, alerter contre les pesticides, etc., etc. C'est une volonté d'être très concret et avec une grosse dose d'humour et d'arguments scientifiques et avec des textes de loi qui vous permettent de vous renseigner précisément.
Et puis il y a de très jolis dessins en plus, plein d'humour.
Oui, alors les dessins, c'est un dessinateur très connu qui fait de la bande dessinée à l'échelle nationale et puis surtout qui est le dessinateur des articles de Fabrice Nicolino dans Charlie Hebdo toutes les semaines. Donc c'est lui qui illustre la page écologique de Charlie Hebdo toutes les semaines. Mmh. Alors j'ai eu de la chance que François Bouc ait accepté d'illustrer mon livre et les dessins sont pliants.
Et en plus, il y a dédicace gratuite.
Voilà, c'est-à-dire que je donne le livre qui vaut 14 € en magasin et je vends la dédicace, voilà.
Voilà.
Au même tarif.
Et aussi, je signale que vous offrez une plaquette gratuite pour lutter contre les pièges mortels involontaires pour la faune.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'aménagements que l'homme fait. Les baies vitrées, les poteaux creux, les trous dans le sol, les fils de pêche qu'on laisse au bord de la rivière. Et tous ces pièges sont extrêmement efficaces pour tuer des milliers de bestioles dans la nature. Et donc si on veut neutraliser ces pièges, quand j'étais au Conseil Général, j'ai rédigé une plaquette sur le sujet qui est numérisée. Et donc toute personne qui me contacte ou qui contacte le Pivert, au mail suivant contact@lepicvert.fr, on enverra gratuitement cette plaquette numérisée qui donne tous les trucs faciles à faire pour neutraliser ces pièges.
Eh ben merci beaucoup Jean-François Noé.
C'est moi qui vous remercie là, franchement.
Voilà, merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est la fin de ce bouillon de Chartreuse spécial environnement. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous les auditeurs de Radio Couleur Chartreuse et je vous dis au prochain épisode.
Avec elle, pas de compote à boire, jamais trop d'eau dans la baignoire, pas de soda dans les placards. Avec elle, pas de trampoline qui rouille, pas de ketchup dans la tambouille, pas d'Halloween à la foire fouille. Avec elle. On dit d'elle qu'elle exagère, on dit d'elle qu'elle est austère, avec elle. Avec elle. Avec elle, de jolis pulls en laine tricotés à l'ancienne, pas de gémeaux, de qui habille, que du troc chez les amis. Avec elle, le McDo s'est banni, pas de sortie chez Whoopi, la télé en panne depuis un bail, pas de console pour la marmaille. On dit d'elle qu'elle exagère, on dit d'elle qu'elle est austère. C'est une maman singulière qui se soucie de la terre, de tous ces gens qui tendent la main, de la santé de ses gamins. Mais ses gamins sont vénères, ils aimeraient de temps en temps qu'elle suive le vent. Qu'elle suive le vent. Avec elle, ses vacances en Bretagne ou à Dodane, dans les montagnes, pas de 4x4 dans les déserts, pas de scooter sur la mer. Avec elle, pas de compote à boire, jamais trop d'eau dans la baignoire, pas de soda dans les placards. Avec elle, on dit d'elle qu'elle exagère, on dit d'elle qu'elle est austère. C'est une maman singulière qui se soucie de la terre, de tous ces gens qui tendent la main, de la santé de ses gamins, de ses gamins.
temps en temps qu'elle craque comme les autres parents. Un peu de Man in China et tant pis pour les dégâts. Dans les oreilles. Oh, 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 oh. Ils aimeraient de temps en temps qu'elle suive le vent. Ils aimeraient de temps en temps qu'elle craque comme les autres parents. Ils aimeraient de temps en temps. J'aimerais de temps en temps qu'elle craque comme les autres parents.